Beaucoup de gens issus de ma génération ont forcément grandi avec Toy Story. Et la question qui se pose est, combien de films sortiront-ils avant que les fans ne se décident à passer à autre chose? Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film d'animation 3D américain du nom de Toy Story 5. C'est réalisé par McKenna Harris ainsi que Andrew Stanton qui n'est pas à son premier coup d'essai chez Pixar puisqu'il avait travaillé par exemple sur Mille et une pattes, Le Monde de Nemo, Le Monde de Ri et Wall-E. En tant que réalisateur, rien que ça, il est là au rendez-vous pour s'occuper du cinquième long métrage de la franchise Toy Story produite par Pixar, ce qui signifie que c'est la première fois que je vous consacre une vidéo entière consacré à Toy Story sur ma propre chaîne. Décidément, après ma première vidéo sur un film Spielberg la semaine dernière, autant dire que je me suis plutôt bien dépucelé. D'autant plus que, comme beaucoup, Toy Story fait partie d'une des nombreuses branches de cet arbre géant qu'est mon enfance. Petit aparté car nous allons traverser une courte zone de turbulence en vous parlant du contraire de mon enfance. En effet, j'annonce que j'ai sorti une vidéo bonus sur Jessica Jones, cette série éclatée que tout le monde adore. Et honnêtement, c'est une des rares fois où je pense avoir été trop loin dans mes propos. J'hésite encore à supprimer certains passages et j'attends d'ailleurs les premiers retours pour savoir si c'est acceptable. Quoi qu'il en soit, je n'en suis point fier.
J'ai pas m'éterniser, je vais défoncer la série, je vous le dis direct, je n'aime vraiment pas cette série, j'ai perdu mon temps.
Comme toujours, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé, et je remercie les gens qui me soutiennent financièrement. Comme je le disais, Toy Story fait partie de mon enfance. J'ai dû voir les deux premiers films tellement fois que j'aurais été capable de réciter leur script tout entier il y a encore quelques années. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revoir uniquement le 3 et le 4 pour me préparer à cette vidéo. Car avec du recul, je me suis rendu compte que je n'ai jamais pris le temps de les revoir. Aussi excellent soit-il, le 3 me fait plus déprimer qu'autre chose. Ce film est si intelligent qu'il a compris qu'il s'adressait aux enfants du premier film qui ont grandi entre temps, voire potentiellement devenus parents pour la plupart. Il fallait donc proposer une histoire avec une double lecture pour plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que le film est aussi mature sous ses airs de cartoon. Mais c'est aussi un film qui me déprime profondément car il me rappelle sur chaque scène que le temps s'écoule et il soulève des questions qu'on n'était pas censé se poser quand on était enfant. Rien que le fait de voir le chien devenu vieux et fatigué, ça me ramène à cette conclusion inévitable qu'il finira par crever. Et ça, eh bien, ça me fout les gigaboules. Donc, pour moi, Toy Story et l'histoire s'arrêtent au 3. Tout ce qui se déroule dans le 4 est uniquement bonus, mais paradoxalement, j'ai pris plus de plaisir à revoir le 4 car le ton est déjà bien plus léger. C'est un petit peu comme si le film disait « le plus dur est fait, maintenant on peut à nouveau s'amuser » comme dans les deux premiers. Mais est-ce que c'est possible de tenir une franchise sur une aussi longue durée? Je veux dire, le 3 parlait d'héritage, le 4 s'adresse directement aux parents qui voient leurs enfants prendre leurs ailes, le 4 leur dit « et après, qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, je pense que si tu es un parent, tu peux mieux apprécier le film. Chaque volet a son thème bien à lui, donc voyons ce que raconte le cinquième. Depuis le départ de Woody, c'est Jesse qui tient les rênes du groupe et Buzz à côté, qui regarde, qui ne sert pas à grand chose. Mais l'équilibre est bouleversé depuis le jour où Bonnie reçoit l'Helipad, une tablette en forme de grenouille qui capte toute son attention et qui menace de reléguer les jouets aux oubliettes encore une fois. Jesse contacte alors Woody, toujours aux côtés de Bo, qui mesure immédiatement la gravité de la situation et décide de revenir prêter main forte à la bande pour reconquérir le cœur de Bonnie. Donc, vous l'avez compris, cette suite décide de se concentrer sur les tablettes. Alors, comme je vous expliquais plus tôt, chaque film cherche à aborder une thématique bien différente, donc ça parlait vraiment aux parents. Et encore une fois, je constate que ce film cherche à s'adresser aux parents, parce que là, ça parle directement des tablettes. C'est un débat, voilà, c'est une chose qui a fait beaucoup débat ces dernières années, le fait que les parents ont un comportement, et un comportement un petit peu irresponsable et finalement file des iPads, des tablettes aux enfants pour qu'ils ferment un peu leur gueule et les laissent de côté, voilà. Et c'est un petit peu ce que le film cherche à raconter et pour le coup, cette idée m'a paru excellente. Mais ça ne parle pas que de ça en fait, ça parle un petit peu de l'évolution des technologies qui, au fur et à mesure, ont remplacé les jouets. Donc il y a une espèce de transition entre différents types de jouets, donc les jouets standards, sans électronique, ensuite les jouets électroniques, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'est finalement le personnage de Buzz dans le premier film. C'est un jouet électronique, et d'ailleurs au début du film, on montre une nouvelle version de Buzz, encore plus avancée. Donc c'est un film qui va parler de tout ça. Et là où cette suite est plutôt intelligente, c'est qu'elle ne se contente pas d'expliquer bêtement que les écrans, c'est nul, un petit peu comme ce qu'un boomer dirait de cette génération. Il va au contraire expliquer pourquoi c'est pas bien. Donc il va nous montrer qu'il y a une sorte de concurrence qui se développe entre les différents enfants qui eux aussi possèdent une tablette, voilà, avec les jeux un peu addictifs comme les MMO. Alors on nous montre pas des MMO, mais c'est tout comme. Si les enfants n'ont pas les tablettes adaptées, ils vont se sentir exclus par rapport aux autres. Donc c'est vachement intéressant. Bien que je pourrais ajouter que ce genre de thème a toujours existé bien avant l'existence de l'électronique et des tablettes. Et l'exemple que j'ai en tête, et je pense que tous les gens qui ont grandi avec ma génération l'ont aussi, c'est le cas de Pokémon. Est-ce que vous avez grandi avec Pokémon? Si vous n'avez pas, les Pokémon adaptés en cours de récré, c'était un petit peu la honte. Celui qui avait les cartes Pokémon, les billes Pokémon, mais il brillait en société. Si tu n'avais pas tes figurines, tes jouets et j'en passe Pokémon, eh bien c'était un petit peu la honte. Tu ne faisais pas partie de leur cercle. Mais bref, je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec ce film, le concept est très bon. Ceci dit, les péripéties qui s'en suivent ne m'ont pas paru forcément dingues. C'est-à-dire que, globalement, il n'y a pas de grands moments dans ce film. Il n'y a pas de moments qui m'ont vraiment touché, marqué. Et j'ai presque envie de dire que c'est ce que j'appelle le Pixar d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont retiré tout ce qui était susceptible de choquer, d'offenser, qui que ce soit. C'est le Pixar que je vous ai décrit dans mes nombreuses vidéos où j'explique ce qui est arrivé à Disney. Alors, souvenez-vous, j'avais interviewé une personne provenant de chez Disney, notamment Pixar, qui avait décrit que tout ce que j'avais théorisé c'est avéré être vrai. C'est-à-dire qu'il y a un dogme, progressisme, mais vraiment poussé à son paroxysme, notamment chez Pixar, qui fait qu'on ne peut plus rien dire, voilà, on ne peut plus offenser personne, on retire toutes les blagues, et on est vraiment dans ce cas de figure parfait avec ce cinquième volet de Toy Story. Il aura beau être réalisé par l'un des meilleurs réals de chez Pixar, qui avait travaillé dans Wall-E par exemple, il ne reste pas moins le film Toy Story le moins savoureux de la franchise, en tout cas à mes yeux. La mission dans cette suite est extrêmement simple. Bonnie, donc celle qui est responsable des jouets de cette suite, est lesbienne et les jouets doivent lui trouver une petite amie. Je rigole même si quand tu vois le rendu global, tu te demandes si forcément l'idée ne leur a pas traversé l'esprit, tout comme dans Vice Versa. Enfin, je vous expliquais encore une fois de Disney, les changements, les renvois massifs qu'ils ont fait vers la fin, début 2025, après avoir fermé leur programme DEI. Ils ont bien retouché leur dernière production avec le Final Cut pour couper les dernières traces de progressisme un peu poussé et trop fort. Et celui où, selon moi, on voit le plus ces traces comme ça, c'est Vice Versa 2. Enfin, tu vois carrément que le film a été pensé pour que la héroïne soit clairement lesbienne. Il y a une scène où elle flash directement sur une jeune fille. Et sauf que ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien parce que ça a été coupé au montage final. Eh bien, dans ce Toy Story 5, tu vois tout plein de traces comme ça. Tu vois que le film a été pensé pour être beaucoup plus progressiste. Tout comme le 4 l'était déjà. Il y a tout un tas de messages. Bon, déjà, le fait que Bo soit devenu une femme forte et indépendante avec beaucoup d'arrogance, hein. Enfin, des répliques qui n'ont aucun sens.
Pi, Pop, Lula, le Storm.
C'est leur nom, ça? Tu me l'as jamais dit?
Tu me l'as jamais demandé.
Le fait que Woody ne sache pas le nom des brebis et qu'il aimait genre.
Et c'est ça, voilà. Pardon, les gars.
Les filles.
Les filles, bien sûr.
Le sous-entendu pour l'adoption sur les homosexuels avec les peluches qui se tiennent la main et qui se disent je t'aime.
On va avoir un enfant.
Ou le fait que les personnages masculins soient devenus cons, notamment Buzz, qui est devenu vraiment très con dans le 4 et le 5, mais j'en parle même pas. Enfin si, je vais en parler justement. La bergère qui est finalement littéralement aussi forte que Princess Peach dans le dernier film Super Mario Bros. Elle se bat d'ailleurs exactement de la même façon. Enfin c'est vraiment la Princess Peach et Beau dans Toy Story 4, c'est pareil en fait, ce sont les mêmes personnages, les mêmes patterns, les mêmes répliques. Vu qu'ils ont tous exactement le même cahier des charges, les films se ressemblent tous. Et donc j'y viens, Buzz, bon déjà il y avait une déception dans le 3, j'adore le 3, hein. Mais Buzz l'éclair m'avait déçu dans le 3 parce que la moitié du film il n'est pas lui-même. Et en plus il y a ce côté où il se met à parler espagnol, alors c'est rigolo, mais les phases les plus héroïques avec Buzz l'éclair dans le 3 sont des phases où il n'est plus lui-même. Dans le 4, il est con. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, Buzz Lightyear, c'est un rangeur de l'espace, il est extrêmement intelligent. Il est naïf du fait qu'au début du film, enfin, en tout cas du premier film, il ne sache pas exactement qui il est. Mais globalement, ça reste un personnage intelligent. Et pour le coup, je trouve que le film consacré à lui a plutôt bien retranscrit ce qu'il est réellement. Mais dans le 4, le fait que Buzz Lightyear lui-même ne sache pas ce qu'est une voix intérieure, Je me dis, mais c'est une blague ou quoi? Enfin, genre, il ne sait pas ce que c'est, la voix intérieure. Donc, dans tout le film, il est un petit peu con-con avec ce gimmick. Et dans le 5, c'est littéralement un zombie. Voilà. Il est extrêmement con dans le cinquième film. Lui et Woody ont complètement été mis en retrait, et c'est dommage parce que ce sont à la base les personnages principaux, notamment Woody, pour finalement donner plus de place à Jesse qui devient le personnage principal de cette suite. Et pourquoi pas? Voilà, je vais pas faire le mec aigri un petit peu comme ce que j'ai fait avec Peach dans les Super Mario Bros. Sauf que là, j'avais mes raisons de le faire. Là, pour le coup, Jessie est restée fidèle à elle-même et c'est cool de l'avoir développée dans une suite. D'autant plus qu'elle a été complètement mise en retrait dans le 4 parce que le 4 était trop occupé à transformer la bergère en personnage fort et indépendant. S'il y avait un personnage sur lequel on devait se concentrer, c'était Jessie dans le 4 déjà. Le fait que Bonnie choisisse de coller le badge de shérif à Jessie dans le 4 à la place de Woody, il n'y avait pas trop d'explication. Là, on va me dire que oui, c'est parce que c'est une fille. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi Bonnie joue également avec Buzz? Enfin, pourquoi Woody, au début du 4, était mis en retrait? Donc déjà, c'était pas cohérent. Ce qui fait que lorsque Woody lui file le badge de shérif à la fin du 4, il lui file le badge, mais sans qu'elle l'ait réellement mérité durant tout le film. Il aurait fallu créer un développement avec Jessie déjà dans le 4. Donc, il y a un gros rattrapage par rapport à tout ça dans le 5e, ce qui fait que Jessie prend toute la place. Et tous les autres, on s'en fout. Woody et Buzz qui sont vraiment, enfin, ils ne servent pas à grand chose. Ils vont juste débloquer la situation à quelques moments, mais en dehors de ça, ils ne serviront à rien. Et ce qui m'a énervé au plus profond de mon âme, alors j'adore Woody et Buzz, c'est mon enfance. Buzz, bah, franchement, c'est le jouet qu'on rêve d'avoir. Et là, ils ont décidé de créer une concurrence complètement débile entre Woody et Buzz qui n'a aucun sens. Et pourquoi ça? Enfin, En gros, ils vont se détester durant tout le film, et sans véritable évolution. Ah, tu comprends pas pourquoi? Ça fait super longtemps que Woody et Buzz ont réglé leur conflit entre eux, et je sais pas, c'est bizarre. Les autres personnages, bah, ne servent à rien puisque Jessie prend toute la place. Ce qui était déjà plus ou moins le cas dans le 4. C'est normal de faire venir de nouveaux personnages. Je comprends que ça s'accumule à force, mais ce qui aurait été bien, c'est de se concentrer sur les premiers. Voilà, Monsieur Patate, Zigzag. Tu te concentres sur l'équipe de base, et le 3 est hyper réussi. Justement parce qu'ils ont réussi à donner l'importance à tout le monde, même Monsieur Patate, il y a des scènes vraiment hilarantes où il a un rôle aussi important que les autres. Autre chose, chose qui m'énerve aussi depuis le 4e film, c'est qu'il n'y a pas de vrai méchant théâtral. Enfin, la poupée, je crois que c'était Gabi Gabi dans le 4, elle était... Bah, c'était une méchante, voilà, une méchante plutôt bien développée, voilà, on a trouvé une conclusion avec elle, pourquoi pas. Mais je trouve que ça manquait d'un vrai méchant théâtral, exactement comme ce qu'on avait avec les trois films. Dans le premier, on avait Sid, dans le second, on avait le chercheur d'or, et dans le troisième, on avait l'ours rose, l'ours à la fraise, avec son regard de Niro. Dans les Pixar, de façon générale, j'adore les méchants très caricaturaux, et on n'a plus ça, en fait. Parce que forcément, on veut faire un Toy Story qui n'offense personne, qui ne blesse personne, donc on n'a plus de méchants. Il n'y a plus de méchants. Là, on va me dire que oui, c'est la tablette. Non, la tablette n'est pas vraiment méchante, c'est, comment dire, la société qui est comme ça. Mais ça aurait été cool de nous faire un vrai personnage méchant pour cette suite. Là, on n'a pas ça, on n'a rien. On a également toute une intrigue complètement inutile, basée sur une armée de Buzz l'éclair, donc qui incarne la nouvelle technologie de Buzz, qui, je pense, est là pour vendre de nouveaux jouets. Et j'imagine... Enfin, je vais en parler en partie spoiler, ce qui sera très court, hein. Mais vous allez voir qu'il y a un truc intéressant par rapport à ça. Il y a des moments aussi un petit peu rigolos, enfin, ils essaient de donner des explications en fonction du lore. Alors c'est pas vraiment utile, parce que le lore quand il pense n'a aucun sens, pourquoi les jouets décident de ne plus bouger à chaque fois qu'il y a des humains qui arrivent, et pourquoi dans certaines scènes ils y arrivent, je sais pas, c'est très bizarre. Et là ils essaient de justifier, ça sert à rien, parce que concrètement Toy Story c'est l'histoire que les gamins se reflètent par rapport à leurs jouets quand ils sont pas là, voilà, ça ne sert à rien de chercher des explications, mais des fois ils essaient de donner des explications de pourquoi ils arrêtent de bouger lorsqu'ils sont dans le champ de vision des humains. J'ai marqué aussi quand Richard Darbois, donc le doubleur de Buzz Éclair, partira. Ça va faire très mal, mais là, ça y est. Là, ça y est, je l'ai senti extrêmement fatigué. Là, c'est vraiment la voix, ce n'est plus la voix du Richard Darbois, d'Aladin, de Buzz l'éclair. Là, c'est vraiment la voix d'un vieillard. Et ça m'attriste, vraiment, l'entendre doubler Buzz l'éclair avec beaucoup moins de panache qu'avant. C'est vraiment, ça m'attriste beaucoup. Contrairement à Woody, toujours doublé par c'est Jean-Philippe Puy-Martin, qui a une pêche dans ce film, malheureusement, complètement sous-exploité puisque Woody est mis en retrait. Et mention spéciale à Barbara Tissier qui nous a concocté un doublage d'enfer exceptionnel pour Jessie. Forcément, vu qu'elle prend toute la place dans le film, là, elle s'est fait plaisir. D'ailleurs, on reparlera aussi également dans la partie spoilers de Jessie parce qu'il y a un truc qui m'a semblé un petit peu incohérent à la fin. Et plus le film avançait et moins je rigolais, voilà, tous les films de Story me font rire, même le 4, il y a des moments qui me font un peu rigoler. Là, dans ce 5e, Encore une fois, comme ils veulent éviter de trop offenser tout le monde, on sent qu'ils se limitent. Mais il y a des moments au début du film qui m'ont fait sourire, voire même rigoler. Il y a une scène par exemple où on a Jesse qui montre, comment dire, les signatures de ses anciens propriétaires, un peu comme si c'était des cicatrices, ça m'a fait rigoler. Et plus ça avance, et plus ça devient juste de l'aventure un peu classique, et moins on rigole. Mais après, je suis un vieil écrit, que voulez-vous ? Il y a une chose que je voudrais noter également, c'est le visuel. Le gap graphique entre le 3 et le 4 est totalement lunaire. Ce sont deux films différents, mais vraiment, c'est le 4 est d'un magnifique, visuellement c'est magnifique, ça n'a rien à voir avec le 3 qui était lui aussi bien supérieur au précédent, mais ce sont clairement deux styles différents. Le 4 est beaucoup plus réaliste et le cinquième volet a, je pense, atteint sa limite parce que c'est exactement finalement le même visuel que le quatrième opus. On est revenu sur un format 16:9 parce que oui, le quatrième a adopté un format cinémascope pour faire plus cinéma. Dans le format 16:9 est vraiment adapté à Toy Story et là ils ont repris ce format pour le cinquième volet. Il y a des séquences aussi en effet pastel lorsque la gamine joue et qu'elle se reflète des scénarios dans sa tête. On a un effet d'animation qui change complètement. Et je trouve que ça fait un petit peu... Ah c'est... Je sais que... Bon voilà. Ça fait un petit peu fifi. Et c'est là que j'ai eu cette réflexion que Toy Story, pour moi, voilà, c'est très personnel ce que je vais dire, et j'ai l'impression que c'est passé d'un divertissement grand public, qui englobe les petits et les grands, les garçons et les filles, un divertissement plus pensé pour les petites filles. Je trouve que ce film, ça fait vraiment petite fille. Alors que le premier, c'était plus un truc de couille. Ça parodiait littéralement ce qu'on appelait les buddy movies, avec deux acolytes qui ne s'entendent pas, mais qui vont devoir collaborer ensemble. Randy Newman, comme toujours, est fidèle à son poste, à la musique, qui nous a proposé des compositions vraiment top. Je pense que c'est ça qu'il nous fallait. Pour par exemple Disclosure Day, au lieu de reprendre un John Williams fatigué, plus inspiré, il nous fallait un Randy Newman beaucoup plus en forme. Alors certes, j'ai pas vraiment de thème en tête qui me reviennent, mais quand même la musique était bien plus énergique. En fait voilà, le terme que j'ai écrit, c'est qu'il est resté un petit peu dans sa zone de confort, mais ça marche toujours aussi bien. En tout cas, s'il n'y avait que ça, il n'y aurait aucun problème. J'ouvre une courte partie spoilers avant de conclure. Alors je vous ai parlé du fait que le film cherche avant des jouets, comme le film Super Mario Bros. Bon, c'est pas la première fois, hein. Enfin, en tout cas, par exemple, les jouets Buzz l'éclair, j'imagine que ça s'est vendu par paquet de je ne sais combien, des par camions entiers avec les premiers films. Et c'est la raison pour laquelle Mattel a accepté d'intégrer les Barbie dans le Toy Story 2 parce qu'ils ont vu que le film a bien marché et ça leur permettait de faire une énorme pub. Et donc, je vous ai parlé de cette espèce d'arc consacré à une armée de Buzz avec une nouvelle technologie intégrée qui ne sert pas à grand chose. Et je crois que c'était intégré là uniquement pour vendre des jouets. Et ce que je voulais vous spoiler, en gros, c'est qu'à la fin du film, ils déploient des ailes développées comme des drones. Donc ce qui leur permet de voler réellement. Je pense que c'est là pour vendre des nouveaux jouets consacré justement à ces nouvelles versions de Buzz avec un drone intégré. Alors je sais pas si les drones vont vraiment se déployer comme ça, ça pourrait être intéressant en tout cas, enfin, franchement, vachement cool. Malheureusement, l'arc des Buzz fait tellement factice, ça fait tellement anecdotique. Alors certes, ils ont une utilité, hein, je dis pas, hein, mais dans le fond, ça ne raconte tellement pas grand-chose que je pense que ça a vraiment été intégré par le cahier des charges pour vendre des jouets. Autre chose que je voulais spoiler par rapport à Jesse, alors c'est celle qui obtient le meilleur développement dans le film, le plus intéressant, puisque c'est le personnage principal, les autres sont complètement mis en retrait, ils n'ont plus rien à raconter. Il y a un truc qui m'a paru incohérent, c'est on remonte un petit peu dans le passé de Jesse pour taper notamment sur la nostalgie. Sa première propriétaire, c'était Emily, il me semble bien, qui l'a abandonnée lorsqu'elle a grandi. Et on se rend compte dans ce film, il y a un twist, où Jesse découvre qu'Emily a décidé de donner le nom de Jesse à sa propre fille, sa fille biologique, qui n'est pas métisse d'ailleurs. Petite parenthèse, hein, parce que en fait, tous les enfants sont présentés comme des métisses dans les Toy Story, y compris Bonnie, puisqu'on a découvert que son père était pakistanais. La petite amie de Bonnie était également métisse, et je découvre que la fille d'Emily n'est pas métisse elle. Voilà, je plaisante évidemment. Enfin, je plaisante. Non, c'est vrai, mais bref. Mais donc voilà, on découvre que la fille biologique d'Emily s'appelle Jessie. Du coup, en fait, Jessie se rend compte que son ancien propriétaire avait encore de l'amour pour elle. Et moi, je me dis, ouf, ça, c'est mal connaître le second film, Toy Story 2, parce qu'on a la backstory de Jessie, et on découvre que l'ancienne propriétaire, Emily, a réellement abandonné Jessie. Elle n'avait plus d'affection pour elle. Et elle a décidé de la donner. Si elle avait encore de l'affection, elle l'aurait gardée, elle l'aurait posée sur un meuble. Moi aussi, hein. Moi aussi, j'ai l'affection pour des vieux jouets, des vieilles peluches que j'ai gardées dans mon coin et je les ai pas données. Donc c'est pas cohérent. Toy Story 2 nous expliquait clairement que les enfants grandissent et passent à autre chose. Clairement, l'ancienne propriétaire de Jessie était passée à autre chose, donc c'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent qu'à sa propre fille biologique, elle donne le nom de son ancien jouet qu'elle a abandonné, et ce de son plein gré. Bref, maintenant, je mets fin à la partie spoiler si je peux conclure. C'était donc Toy Story numéro 5, et c'était sympathique. Voilà, c'était sympathique. Mais est-ce que Toy Story, c'est un film qui mérite le titre seulement de sympathique? Je ne sais pas. Là, tu me fais, comment dire, tu me proposes le film Elio qui est sorti il y a un an, tu me proposes Toy Story 5, moi je dis, je sais pas, les deux c'est à peu près du même niveau. C'est-à-dire que les deux sont à peu près oubliables au même niveau. C'est la première fois que j'ai senti une fatigue dans Toy Story. Alors là, on va me dire que dans le 4, c'est pareil. Je sais pas, j'ai revu le 4 et je trouve que le 4, il y a beaucoup plus de choses à aborder. Il y a beaucoup plus de thèmes intéressants. Le seul vrai défaut dans le 4, finalement, c'est le fait, comme je l'explique au début, d'avoir mis en retrait Jessie pour mettre en avant, transformer la bergère en femme forte et indépendante. Pour moi, c'est un vrai point noir. Et le fait aussi que tous les jouets ne servent pas à grand chose. Bref, mais il faut bien comprendre que ce Toy Story 5, c'est le Pixar dans sa pire forme, qui a subi probablement plein de cuts au montage, développé dans sa pire période. Souvenez-vous de ça, il a été développé dans sa pire période. Alors déjà, je rappelle que ce Toy Story 5 a été annoncé, commandé directement par Disney Pixar, justement depuis la faillite, la firme était en train de chuter en bourse. Il fallait absolument quelque chose pour que ça remonte. Donc c'est là qu'ils ont fait plein d'annonces de suites, que ce soit du côté de Disney, de l'animation Disney ou l'animation Pixar. Ils ont commandé plein de suites avec Vaiana 2, je crois, Toy Story 5, Zootopie 2 également. Ils ont bombardé les suites d'anciens succès pour pouvoir rebooster un petit peu, redoper le box-office. Et d'ailleurs, ça a marché. Vice Versa 2 aussi. Vice Versa 2, c'était commandé en plein dans cette période. Donc c'était développé dans la pire période, justement, avec cette phase de progressisme poussée à son paroxysme, et toute la phase où Disney est arrivé par-dessus pour virer tout un tas d'employés, pour purger un petit peu tout le monde, voyant que ça faisait polémique sur Internet. Donc, ce Toy Story 5, c'est un monstre de Frankenstein. Voilà. Et je trouve que pour une créature de Frankenstein, il s'en sort pas trop mal. Mais on voit les cicatrices, voilà. On voit les plaies, les coutures, les points de couture partout. Et je ne sais pas si... Là, j'avoue que j'ai la flemme de voir un 16e opus, quitte à se rattraper plus tard, je sais pas. Là, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette franchise. Je sais même pas si ça a marché. Est-ce que ça a marché? Je pense que oui. Parce que Zootopie 2, ça m'a fait le même effet. Et pourtant, le film a cartonné au box-office. Donc je pense qu'il y a une chance que Toy Story 5 fonctionne lui aussi. Bref! Bien sûr, ce n'était que mon avis. Comme à chaque fois, je vous le dis, ça ne changera pas le vôtre et c'est pourquoi je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. Comme toujours, j'y prêterai attention. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas le petit lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé de mon Patreon pour me retrouver dans ma dernière vidéo bonus consacrée à cette série éclatée que tout le monde adore, Jessica Jones, que j'ai vu bien trop tardivement. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez pour faire plaisir, parce qu'en plus ça c'est gratis. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.